Voici une question dont la réponse va certainement étonner plusieurs de nos auditeurs. Y a-t-il un organisme humain qui va pouvoir améliorer notre monde? Le Grand Livre de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a encore plusieurs bonnes questions à poser à la parole de Dieu aujourd'hui. Il ne faut surtout pas manquer les réponses qu'elle va nous donner. Voici les questions. Est-il possible d'être presque sauvé? Est-ce que la persécution peut arrêter les plans de Dieu? Peut-elle contribuer au progrès de l'Évangile? Est-ce qu'un chrétien peut se passer de ses frères et sœurs en Jésus-Christ? Dieu atteint-il toujours les buts qu'il a fixés pour les siens? Est-ce que ça peut se voir quand une personne marche avec le Seigneur? De qui est-il préférable de recevoir des conseils, des experts en la matière ou de ceux qui connaissent réellement Dieu? Est-ce que les programmes, les différents types de gouvernements et les efforts humains vont améliorer notre monde? Demeurez des nôtres. Le pasteur et Jean Joly est sur le point de nous donner des réponses à toutes nos questions. Il a ouvert sa Bible et il est prêt à nous donner tout ce merveilleux enseignement qu'elle contient. Mais premièrement, prions. Seigneur mon Dieu, on est tous un seul cœur pour venir à toi, te demander de bénir ce temps où tu vas nous enseigner. Parle à nos cœurs. Aide-nous à pas être distraits par les choses de ce monde, par notre quotidien. Aide-nous à fixer notre attention entièrement sur toi. Parle à nos cœurs, Seigneur, fais-nous du bien par ta parole. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons examiné le discours que l'apôtre Paul a prononcé devant le roi Agrippa, le gouverneur Festus, ainsi que le gratin politique de la région de Césarée. Dans ce discours, Paul a parlé du pardon du péché, de la repentance, d'œuvres dignes de la repentance, de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. L'auditoire a entendu un exposé complet de l'Évangile. Tous savaient qu'ils devaient passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Paul a expliqué qu'il fallait se convertir, se tourner vers Dieu. Chers amis, débutons notre lecture du livre des Actes, chapitre 26, versets 28 et 29. Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis à l'exception de ces liens. » Êtes-vous sauvé? Il est impossible d'être presque sauvé. Agrippa n'a pas accepté le Seigneur Jésus, donc il n'a pas reçu la vie éternelle. Les théologiens sont incapables de sonder toutes les profondeurs du salut que nous offre Dieu. Cependant, il est assez simple pour que tous puissent le comprendre. Soit que vous ayez reçu le Seigneur Jésus, soit que vous ne l'ayez pas reçu. Soit que vous faites confiance au Seigneur Jésus pour votre salut, soit que vous ne lui faites pas confiance. Il n'y a pas de position neutre ou intermédiaire. Vous ne pouvez pas être presque sauvé. Vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Paul a dit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis. » Paul dit qu'il souhaite que tous ses auditeurs en viennent à une connaissance intime et personnelle du Seigneur Jésus. Il leur souhaite qu'ils deviennent comme lui, sauf pour ses chaînes. Il ne souhaite pas à personne de se retrouver enchaîné. nous voyons ce qu'est devenu l'ex-pharisien, orgueilleux et zélé. Nous avons devant nous l'homme qui, il n'y a pas si longtemps, enchaînait les chrétiens et les faisait mourir. La grâce de Dieu a transformé cet homme. C'est un miracle. Seul Dieu a le pouvoir de prendre de ses coupables et en faire des justes. Il désire maintenant que tous aient une merveilleuse relation avec le Seigneur Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. La transformation est frappante. Quelle en est l'explication? C'est simple. Jésus est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Paul a dit très tôt dans son discours, « Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Il n'y a rien d'insensé à croire à la résurrection. Il y a plus de 2000 ans, avant tout notre progrès technologique, il aurait dû être encore plus difficile de croire à la résurrection. Aujourd'hui, le progrès technologique rend la résurrection plus crédible. Nous devrions y croire plus facilement aujourd'hui. » Puisque Jésus est revenu d'entre les morts, il y aura un autre jugement. Il y a un autre trône sur lequel Jésus est assis. Il y a un autre prisonnier, soit vous ou moi. Soit que vous vous soyez incliné devant le Seigneur Jésus et que vous l'ayez accepté comme Seigneur et Sauveur. Soit que vous passerez en jugement pour la condamnation éternelle. La résurrection est une vérité aux conséquences éternelles pour les sauvés comme pour les non-sauvés. Versets 30 à 32. Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent, et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à César. » Il n'y a plus aucun doute, Paul est en route pour Rome. Certains pensent que Paul a fait une erreur, en appelant à César. Mais je ne pense pas que c'est le cas. Dans son épître aux Romains, Paul a exprimé le désir d'aller à Rome, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Romains chapitre 1 verset 10 et 11. Paul est donc en route vers Rome. Certains peuvent penser que ce ne fut pas un voyage profitable. Cependant, ce voyage était conforme à la volonté de Dieu et fut donc profitable. La persécution n'arrête pas les plans de Dieu. Nous pourrions appeler ce voyage à Rome le 4e voyage missionnaire de Paul. En effet, il fut très actif au cours de son voyage. Il a visité de nombreux chrétiens et il a témoigné à de nombreuses personnes. Il fut aussi fidèle à Dieu qu'il le fut pendant ses voyages précédents. Ses chaînes ne l'ont pas empêché d'évangéliser et d'exercer son ministère, même s'il fut enchaîné pendant tout le voyage. Il a écrit ces mots à Timothée. « Selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. » 2 Timothée, chapitre 2, verset 9. De plus, il a dit aux Philippiens que ce qui lui arrivait contribuait au progrès de l'Évangile. Philippiens chapitre 1 verset 12. La main de Dieu est sur tous ces événements, même si le voyage se déroule de façon différente cette fois-ci. C'est Rome qui paie tous les coûts du voyage, puisque Paul est un prisonnier. C'est la réponse à la prière de Paul pour évangéliser Rome et rencontrer les chrétiens de cette ville. Lorsque Paul en a appelé à César, son cas cessait d'être de la juridiction du gouverneur Festus ainsi que du roi Agrippa. Après la comparution de Paul, le roi Agrippa dit « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à César. » Acte chapitre 26, verset 32. Les deux hommes avaient les mains liées et devaient maintenant envoyer Paul à Rome. Le chapitre 27 nous raconte ce voyage. Ce chapitre pourrait être le journal de bord du navire. Nous avons dans ce chapitre la meilleure description qui soit d'un voyage en mer à cette époque. Ce chapitre contient aussi des termes techniques grecs. Luc les utilise pour décrire le voyage. Maintenant, nous nous mettons en route avec Paul pour le récit du voyage le plus excitant du livre des Actes. Débutons notre lecture du 27e chapitre du livre des Actes, verset 1er. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Ceci est le début du voyage de Paul en Italie. Paul et d'autres prisonniers sont confiés à Julius, centenier de la cohorte Auguste. Il est probable que Paul fut le seul prisonnier qui était citoyen romain. Les autres devaient être des criminels que l'on envoyait à Rome pour les exécuter dans les arènes. Certains deviendraient des gladiateurs, d'autres seraient jetés en pâture aux fauves. Il y avait un commerce d'êtres humains pour fournir le Colisée. Ces personnes provenaient de tous les coins de l'Empire pour assouvir les vices de la population. Ces prisonniers étaient des hommes sans espoir. Paul a eu une belle occasion de leur présenter l'Évangile, avec tous ces prisonniers qui l'accompagnaient. Le Seigneur Jésus lui-même avait dit qu'il venait pour libérer spirituellement les prisonniers de leurs péchés et de leur culpabilité. Verset 2. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. S'il y a une carte à la fin de votre Bible, vous aimeriez peut-être suivre le parcours du voyage. Le bateau a suivi la côte d'Israël. Le navire n'est pas allé directement vers Rome, il est demeuré rapproché de la côte. Notez aussi que Dieu soulage la souffrance de Paul en lui accordant un autre compagnon, soit Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Cet homme était peut-être un converti de Paul. Quoi qu'il en soit, il était un chrétien qui a accepté de souffrir pour en accompagner un autre. Verset 3. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Sidon est un endroit dont nous en avons souvent entendu parler. Tyr et Sidon se trouvent sur la côte de la Phénicie, qui est aujourd'hui le Liban. Aucun chrétien ne peut se passer de ses frères et sœurs dans le Seigneur. Notez que le centenier accorde beaucoup de liberté à Paul. Je pense que ce centenier fut touché par l'Évangile que prêchait Paul et qu'il s'est converti. Nous ne pouvons pas être certains de sa conversion, mais il ne fait aucun doute que Dieu l'a bien disposé à l'égard de Paul. Il traita Paul très bien et lui permit d'aller visiter des chrétiens de Sidon. Même l'apôtre Paul avait besoin de la communion avec des frères ainsi que leur soutien. Aucun chrétien ne peut se passer de ses frères et sœurs dans le Seigneur. Nous avons besoin d'encouragement mutuel. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Éphésiens, chapitre 5, verset 19. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous, parce qu'il vous aime à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 12 à 14. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Hébreux, chapitre 16, versets 24 et 25. Nous avons tous besoin, les uns des autres, dans la famille du Seigneur. Même l'apôtre Paul avait besoin du secours et de l'encouragement de ses frères et sœurs dans la foi. C'est pourquoi Dieu lui ouvrit les portes pour que les chrétiens de Sidon puissent l'aider. Même à Rome, Dieu a permis que Paul puisse recevoir les chrétiens chez lui. Il fut gardé à domicile. Ses frères et sœurs dans la foi ont pourvu à ses besoins. Seul l'orgueil fait de nous des personnes autosuffisantes. Dieu nous appelle à mettre nos dons au service des autres et aussi à recevoir des autres. Nos frères et nos sœurs dans la foi sont la voie par laquelle Dieu nous communique son amour. Ne vous privez pas de cet amour. Verset 4. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. En fait, le navire est passé au sud de l'île de Chypre plutôt qu'entre l'île et l'Asie, la Turquie de nos jours. Donc, des vents provenant du nord ont fait dériver le navire. Paul a dû être touché à la vue de cette île où il recueillit les premiers fruits de son premier voyage missionnaire. De plus, Barnabas et Jean-Marc y ont exercé un ministère lorsque les hommes ont pris des chemins différents. Verset 5. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Maintenant, le navire longe la côte sud de l'Asie mineure. Malgré les vents contraires, Dieu a guidé le navire à bon port. Il en fait autant malgré les vents contraires de la vie. Il atteint toujours les buts qu'il a fixés pour les siens, et il les conduit là où il veut. Verset 6. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Myra était un port d'escale, où l'on changeait de navire selon sa destination. Le navire d'Alexandrie venait de l'Afrique du Nord et il était en route pour l'Italie. Versets 7 et 8. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Snide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Le navire était en route pour l'île de Crète. Il semble qu'il naviguait avec difficulté. Il y avait beaucoup de vents contraires. Lazée se trouve sur la côte sud de Crète. Verset 9. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. La saison était avancée, et l'hiver arrivait rapidement. Ils espéraient arriver à Rome avant la saison des tempêtes. Moralement, c'est l'apôtre Paul qui domine, et cela se voit à ce moment-là. Lorsque le voyage devient trop dangereux, Paul les avertit. Versets 10 et 11. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Nous pouvons comprendre le centurion. Nous nous attendons à ce qu'un capitaine en connaisse davantage en matière de navigation que l'apôtre Paul. Cependant, parfois il est préférable d'évaluer les conseils plutôt que de compter les votes. De plus, nous voyons que Dieu donne du discernement aux siens. Paul n'était pas marin, mais il était en communion intime avec Dieu. Celui-ci lui a fait voir le danger de poursuivre le voyage, puisque la saison était avancée. Si le capitaine et son équipage n'ont pu ou n'ont voulu reconnaître le danger, Dieu savait qu'une tempête puissante s'élèverait. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, cela se voit. Nous voyons Paul à l'épreuve ici. Il ressort du groupe. Il fait une recommandation, et plus tard, nous verrons que les marins auraient dû la suivre. La supériorité spirituelle de Paul se manifeste dans cet événement. Paul n'est ni confus, ni incertain et ni frustré. Paul démontre une assurance calme. Paul savait où il allait. Il ne craignait pas la mort, et Dieu lui avait dit qu'il irait à Rome. Il lui fait tout simplement confiance. Paul a donné son conseil et il a laissé le résultat entre les mains de Dieu. Paul était en communion avec Dieu et cela se démontrait dans son attitude. Cela se voit quand une personne place sa confiance entièrement en Dieu. Verset 12. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. L'équipage veut se rendre à un meilleur port sur l'île. Cependant, les événements vont donner raison à Paul. Le capitaine, les militaires et les marins s'appuient sur des jugements humains. Paul s'appuie sur Dieu seul. Verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Le capitaine se fit à son jugement et à la sagesse des hommes. Paul se confia en Dieu. Plus tard, Paul dira à ses hommes, « J'ai confiance en Dieu. » Le verset 25 de notre chapitre. Notez qu'il n'a pas dit qu'il croit en Dieu, mais qu'il a confiance en Dieu. Une personne n'ayant pas reçu le Seigneur Jésus comme sauveur peut croire en Dieu, mais seule une personne en relation intime avec Dieu peut mettre sa confiance en lui. Naviguons-nous selon des incertitudes ou selon la parole de Dieu? Chers amis, la vie est un océan vaste et notre vie est un petit voilier. Nous pouvons naviguer selon les suppositions et les incertitudes humaines si nous le désirons. Mes amis, il y a cependant une tempête puissante sur cette mer. Ce qui est tragique, c'est qu'au milieu de la confusion, du chaos mondial et des ténèbres, la plupart des humains se fient à des incertitudes et des suppositions. L'humanité a proposé des milliers de façons pour améliorer ce monde. Cependant, nous devons faire un constat d'échec. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui connaissent Dieu, qui se confient en Dieu. De telles personnes sont rares aujourd'hui. Ce n'est pas des programmes, des types de gouvernement ou d'efforts humains qui vont améliorer notre monde. Le cœur humain est méchant et il a besoin d'être régénéré. Autrement dit, il nous faut un nouveau cœur. C'est ce que le Seigneur Jésus nous propose. Toutes les formes de gouvernement se sont corrompues parce qu'elles ne peuvent être meilleures que les hommes qui y participent. Tout comme la justice romaine, avec ses lois excellentes, ne pouvant être plus justes que Pilate, Félix et Festus, les gouverneurs qui appliquaient ces mêmes lois. Un jour, une dame qui travaillait à la campagne d'un candidat affirma ceci en faisant allusion aux chrétiens. « Nous sommes plus réalistes que les chrétiens. » En fait, cette dame avait tort. Les politiciens peuvent proposer d'excellents programmes et d'excellentes idées, mais ce sont des personnes au cœur corrompu qui essaieront de les appliquer. Le chrétien est en fait la personne réaliste. Il sait que le véritable problème est le cœur de l'homme, et il cherche à conduire les hommes au Seigneur Jésus afin qu'il leur donne le cœur nouveau qu'il a promis. Le prophète Ézéchiel, chapitre 36, versets 24 à 26. Il ne me reste plus qu'à vous poser une seule question avant de terminer cette émission. Êtes-vous venu à Jésus-Christ pour un tel cœur régénéré? Est-ce votre Créateur qui vous guide ou les principes des hommes? Sur quoi est basée votre manière de vivre? Sur la parole d'homme ou la parole de Dieu? Dieu est prêt à devenir votre guide si vous l'acceptez en tant que tel. Vous avez besoin d'un guide pour votre vie, et ce guide, c'est Jésus, qui vit toujours. Chers amis, prochaine émission, Actes chapitre 27, versets 14 à 35.
Merci beaucoup, Régent. Merci de nous rappeler qu'aucun chrétien ne peut se passer de ses frères et sœurs dans la foi. Il y a eu plusieurs moments dans ma vie où j'ai eu particulièrement besoin du secours que Dieu m'a donné par l'entremise de mes frères et sœurs dans la foi. Par exemple, en l'an 2000, ma sœur aînée est décédée. Alors qu'elle en était rendue à ses derniers jours, j'ai eu le vif désir de la visiter une dernière fois, Elle habitait aux États-Unis, dans l'État du New Jersey, à environ 8 heures de route de chez moi. Et j'ai dû m'absenter pendant environ 4 ou 5 jours, ce qui signifiait que je devais subir une perte de salaire. Mais je suis quand même partie en faisant confiance à Dieu, sachant qu'il allait pourvoir à mes besoins, comme il l'a toujours fait d'ailleurs. Avant d'aller plus loin dans mon histoire, j'aimerais vous dire qu'à l'église que je fréquente, on se réunit le dimanche matin à l'église, mais sur semaine, on se réunit par petits groupes de 12 au maximum, et ce, dans la demeure de quelqu'un, un des membres du groupe. Et à cette époque-là, mon groupe se réunissait chez moi. Maintenant, étant célibataire, j'ai une amie à qui j'ai confié une clé pour mon appartement en cas d'urgence. Et quand je suis revenue de mon voyage, je me souviens que c'était un mercredi vers 20 heures. Cette amie et les autres membres de mon groupe étaient réunis chez moi, priaient pour moi et m'attendaient à bras ouverts. Dieu m'a consolé par leur présence et par leurs paroles d'encouragement. Et en plus, ils s'étaient tous cotisés pour pourvoir aux dépenses de mon voyage et pour combler ce qui manquait à mon salaire à cause de mon absence. Quel amour! Quelle manifestation de l'amour de Dieu envers moi à travers mes frères et sœurs! Et j'ai une autre anecdote à vous raconter. Dernièrement, j'étais à la recherche d'un nouveau logement. Pendant environ 1 mois, j'ai fait marcher mes doigts dans les petites annonces de mon journal local et j'ai visité toutes sortes de logements qui ne convenaient pas à mes besoins. Et pendant ce temps-là, à chaque mercredi soir, pendant nos rencontres dans la demeure d'un des membres de notre groupe, mes frères et sœurs dans la foi priaient pour moi avec acharnement, insistant auprès de Dieu pour qu'il m'accorde exactement l'endroit dont j'avais besoin pour faire mon travail dans la joie, pour exercer l'hospitalité et pour vivre dans la paix, dans la présence de mon Dieu merveilleux. Pour faire une histoire courte, un mercredi soir, à 19 heures, j'ai enfin visité un logement qui convenait entièrement à tous mes besoins. J'avais dit à mes frères et sœurs que je les rejoindrais pour notre réunion un peu plus tard. Finalement, j'ai quitté l'endroit vers 20h30, et même si je savais que la réunion se terminait vers 21h15, j'ai décidé d'aller rejoindre mes amis pour partager ma joie avec eux, pour rendre grâce à Dieu, leur remercier avec eux. Oh, mon frère, ma sœur, voyez-vous à quel point on a besoin les uns des autres. Je t'encourage à ne pas te tenir à l'écart, à ne pas imaginer que tu peux te débrouiller tout seul, alors que Dieu t'a donné une belle grande famille avec qui tu peux partager tes joies et tes peines. Le Seigneur nous dit de nous aimer les uns les autres. Comment est-ce qu'on peut faire ça à longue distance? Il y a quelque chose de spécial qui se passe entre nous quand on partage ensemble. On goûte à la présence de Dieu. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 18, verset 20, Jésus dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. On a besoin les uns des autres.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne. Comme toi, Réjean, la dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épaté. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca. Ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.